Oudrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Outtalk, c'est la discussion French Cloud.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 4 de notre programme podcast Outtalk. Aujourd'hui, notre invité est Mathieu Plane, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Mathieu et bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bienvenue sur notre chaîne Outtalk, une série de podcasts réalistes et dynamiques destinés à partager nos expériences avec d'autres entreprises, d'autres acteurs et à insuffler une énergie aussi positive que possible en ces temps troublés. Nous continuons à traverser cette crise sanitaire, Mathieu, sans précédent. L'heure est déjà, pour autant, à un bilan intermédiaire sur la santé des entreprises et leur capacité ou non à avoir traversé cette première période de confinement. Mesurer les impacts, les changements à court et moyen terme, mais aussi envisager les perspectives positives qu'offre cette situation, qui nous oblige à repenser le rapport au travail, l'organisation même du travail et potentiellement le paysage économique français. Alors, sans rentrer dans les détails dès à présent, vous êtes Mathieu Plane aux premières loges à l'OFCE pour parler de ces sujets, n'est-ce pas ?
Oui, on est effectivement assez bien placé pour en parler, étant donné la crise dans laquelle on est plongé et l'incertitude qu'elle peut créer, notamment sur la situation économique et les mesures de politique économique pour répondre à cette crise. On voit qu'on est dans une crise inédite. Effectivement, les politiques publiques aussi doivent s'adapter à cette crise inédite. Et donc, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de politiques économiques, il faut déjà avoir un diagnostic qui soit à peu près établi sur la situation. Or, aujourd'hui, on a quand même des indicateurs qui sont très différents de tout ce qu'on a pu connaître par le passé. Et donc, c'est vrai, établir cette situation est assez complexe, d'autant plus que c'est une crise qui a une origine qui est rarement l'origine de crise, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas face à une crise financière ou une crise des dettes souveraines ou une crise immobilière. On est quand même face à une crise sanitaire qui a des répercussions sur une crise économique, qui donne lieu à une crise économique. Et puis, on a des effets sectoriels qui sont très forts. Et ça, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on voit que, et là on en reparlera sûrement, que les secteurs sont touchés très différemment selon leurs effets, leur exposition justement au tourisme, à l'interaction sociale, un certain nombre de choses. Donc, nos points d'entrée sont quand même assez différents de ce qu'on a l'habitude d'analyser. Ça rend l'exercice extrêmement intéressant, mais c'est vrai que, du coup, on analyse des chiffres qui ont tendance à donner le vertige.
Inédit,
à la fois sur la chute d'activité, mais aussi sur les rebonds qu'on peut avoir. Donc, bien sûr, on voit que nous, en tant que conjoncturistes, prévisionnistes, c'est un exercice très intéressant, mais assez complexe en ce moment.
Merci beaucoup pour cette introduction qui donne, en effet, envie d'en savoir plus. Mais avant d'aller plus loin, peut-être tout d'abord, est-ce que je peux me permettre de vous demander, Mathieu, comment vous avez vécu ces premiers mois de crise sanitaire ? Alors, on a bien sûr fait référence au confinement. Comment vous avez vécu ça ? Comment ça s'est passé d'ailleurs pratiquement à l'OFCE ? Est-ce que vous avez été en confinement également, j'imagine, en télétravail ? Enfin, comment ça s'est passé pour vous ?
Oui, tout à fait. On a fermé clairement les locaux. Donc, nous, on a la possibilité d'avoir une activité qui a été maintenue, mais à distance, donc en télétravail. On s'est vite adapté, ça a été la bonne surprise. C'est finalement de voir que la capacité d'adaptation des uns des autres avec ces outils numériques, et malgré cette situation assez complexe, on a réussi à sortir un certain nombre d'études, justement, intéressantes, qui ont été assez reprises dans le débat public par rapport à la crise économique et la crise sanitaire. Et puis, le quotidien a été assez bousculé parce que, effectivement, il a fallu s'adapter dans les logements, notamment parisiens, qui sont pas très grands, avec les enfants qui n'ont plus d'école, où il faut faire aussi l'école. Donc, on a quand même fait preuve de pas mal de souplesse, mais le résultat a été assez intéressant, en tout cas en termes professionnels.
Intéressant, on y reviendra également. Comme beaucoup, vous devez connaître le prénom des enfants de vos collègues, j'imagine.
Oui.
C'est ce qu'on a tous, effectivement, constaté. Je crois qu'il y avait une porosité, du coup, inédite là aussi.
À travers les caméras.
C'est ça. Tout à fait. Du coup, vous, à titre personnel, c'est une période qui s'est plutôt bien passée. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas vraiment apprécié cette période-là. Vous, c'était plutôt agréable ?
Alors, agréable. Après, il y a un côté assez stressant, quand même, à la situation, parce qu'on était quand même face aussi à une crise sanitaire totalement inédite. Donc, on voyait pas tellement l'aboutissement de tout ça, mais en termes d'un point de vue professionnel, oui, ça, pour nous, ça a été extrêmement intéressant, assez stressant aussi parce que Effectivement, on a voulu sortir un certain nombre d'études, d'analyses qui pouvaient avoir un impact sur la décision publique assez rapidement. Donc ça a été aussi beaucoup de travail. Mais globalement, je dirais que oui, professionnellement, ça s'est plutôt bien passé. Après, ça a été plutôt la gestion de tout ça dans un univers nouveau, c'est-à-dire dans des appartements qui sont pas très grands. Vous n'avez pas forcément un bureau qui est adapté pour ça. Vous avez des enfants qui vont plus à l'école, il faut s'en occuper. Donc ça veut dire c'était une organisation de vie qui était nouvelle. Alors on savait que c'était pour un temps donné. C'était une expérience intéressante.
Vous parliez de mener des études justement pour aider à la décision publique. Alors comment pratiquement on mène des études par temps de confinement? C'est donc exclusivement du téléphone, c'est du digital? Comment ça se passe?
Nous, on travaille beaucoup sur les données, en fait, hein, des données. Donc après, on a bien sûr, on travaille sur ordinateur. Et puis après, on a utilisé les outils qui permettaient de faire des visioconférences, des réunions à distance, que tout le monde utilise, enfin beaucoup utilisent en tout cas, et qui nous ont permis justement de garder le contact, sachant qu'après, voilà, notre travail est quand même essentiellement basé sur travail d'analyse de données, d'outils statistiques économétriques, de logiciels qui permettent aussi de faire de la modélisation. Et donc, on a eu cette possibilité de faire ça. Après, ce qui était dans notre métier, il est important aussi d'échanger, parce qu'on travaille un travail d'équipe, hein, on se répartit bien sûr les tâches, comme dans beaucoup d'entreprises, mais il y a quand même pas mal d'interactions sur justement des choix qui peuvent être faits. On a besoin quand même de réunions assez régulières. Et le point intéressant, c'est qu'on a réussi à maintenir quand même toutes ces réunions, mais à distance, alors qu'on le faisait quasiment jamais hein, avant. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu un moment d'adaptation. Hein, je pense que ça n'a pas été immédiat pour tout le monde. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que même si la situation a changé, on garde quand même ces outils-là. Et donc, on a à la fois du présentiel et du télétravail, mais à chaque fois, les réunions, on a le choix d'être soit en présentiel, soit à distance. Et donc, effectivement, on utilise maintenant les outils numériques beaucoup plus qu'avant. Et on voit que c'est des outils qui sont relativement performants. Et maintenant qu'on sait les utiliser, c'est quand même extrêmement intéressant.
Donc je note que ce qui a pu vous manquer peut-être, c'est le lien, hein, comme beaucoup, l'échange, le fait de pouvoir être spontané aussi dans la discussion, j'imagine. En revanche, je note aussi que du coup, il y a eu un véritable, enfin, la possibilité de travailler maintenant de façon hybride. C'est le cas, je crois, pour beaucoup d'entreprises, on va y revenir. Donc peut-être une accélération d'un changement de modèle par rapport à la façon de travailler.
Oui, alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu des conséquences directes hein, de ce confinement sur la façon dont on travaille maintenant. Et puis, on voit bien qu'on n'est pas sorti de l'épidémie, de la crise Covid. Donc, on n'est pas revenu totalement en arrière. Donc, maintenant, c'est de savoir comment on se projette aussi dans l'avenir. Pour le moment, on est vraiment dans un entre-deux qui fonctionne plutôt bien, dans lequel, en fait, l'interaction sociale reste parce qu'il y a quand même un présentiel au bureau. Et puis, une partie qui est faite à distance en télétravail. Et donc, on commence effectivement à chacun trouver ses marques. Je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire aussi dans la durée. C'est peut-être ça la réflexion intéressante. C'est après cette crise Covid, voir ce qui va rester. Et du coup, quel est l'intérêt pour les salariés et les entreprises d'avoir une gestion différente de l'organisation du travail. Et je pense qu'il y a eu une vraie découverte de ce côté-là.
Tout à fait. On va y revenir, mais peut-être... Passons sur un constat peut-être un peu plus rationnel et chiffré, on va dire. Est-ce que vous avez une vision aujourd'hui de l'état de la situation économique française? Donc, on parlait de cette crise sanitaire, on parlait du dynamisme de certains secteurs, on a évoqué le fait que certaines entreprises se sont rapidement adaptées. Ça a été difficile pour d'autres. On en est où aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs points. Il y a le diagnostic de ce qui s'est produit déjà, qui est effectivement... une chute du PIB d'activité qui est historique, hein, c'est-à-dire on a perdu en un semestre près de 20% de notre activité. Pour donner des ordres de grandeur, sur l'ensemble de l'année 2009, hein, qui était la crise la plus sévère que l'économie française ait connue depuis l'après-guerre, hein, qui est la crise liée à la crise financière Lehman Brothers, on a perdu 3%. Donc là, on a perdu 20%, donc ça vous montre l'intensité. En revanche, on observe un rebond assez net. Ça, c'est plutôt le point rassurant. C'est qu'on voit, notamment à partir du déconfinement, un rebond notamment de la consommation qui a été assez fort, plus fort que ce qu'on pouvait éventuellement anticiper. Il y a un autre point, c'est qu'on voit qu'une épargne importante des ménages s'est accumulée. On a plus de 60 milliards d'épargne accumulée liée justement à la contrainte sur la consommation. C'est-à-dire que le revenu des ménages s'est pas effondré, La consommation a beaucoup baissé, donc il y a une épargne accumulée. Donc ça, c'est un support de rebond aussi pour l'avenir, parce qu'effectivement, s'il y a des capacités financières du côté des ménages, ça peut être intéressant pour le rebond à venir. Et puis, il y a un plan de relance quand même qui est ambitieux, hein, qui est de 100 milliards, qui va permettre de dynamiser notamment la reprise attendue pour 2021. Donc, il y a des conséquences qui vont être quand même très fortes, parce qu'on est face à un choc qui est inédit. Mais il y a les points positifs, c'est que d'une part, il y a cette épargne dont je vous parle, et puis le fait que l'État, les banques, l'État français, mais aussi les autres États de partenaires européens, mais aussi les banques centrales, ont fait beaucoup pour éviter qu'il y ait vraiment un effondrement de l'économie. Et donc pour le moment, tout ça est quand même assez contenu, même si on peut pas évacuer le fait qu'il y a des risques de faillite assez élevés, qu'on voit le chômage quand même beaucoup augmenter, et que il faut quand même aussi le dire, notre spécialisation sectorielle nous avantage pas. C'est-à-dire, comme je vous disais, c'est qu'il y a un choc qui est sectoriel, qui est lié notamment au tourisme. Oui. On a plutôt un point d'attractivité fort, et l'aéronautique et notre fleuron industriel. Or, il se trouve que ces deux secteurs sont quand même touchés en plein cœur par cette crise Covid. Donc, ça veut dire aussi que d'autres secteurs doivent émerger pour pouvoir récupérer des pertes d'activité qu'on va avoir par ailleurs. Et donc, on pense plutôt à la santé, au numérique, ou des secteurs qui ont plus d'avenir de ce côté-là.
Tout à fait. On allait effectivement y venir. Oudrive fait partie des entreprises du secteur numérique. J'allais vous poser une question directe. Diriez-vous que ce secteur a été quelque peu épargné par la crise ?
Oui, clairement. Clairement, il y a un certain nombre de secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Il y a plutôt l'agroalimentaire, hein, par exemple. On le voit, bien sûr, le secteur de la santé, de la pharmacie.
L'agroalimentaire, c'est durable pour vous ? Comme,
Durable, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un bien de première nécessité. Et qu'effectivement, du coup, pendant la crise, ça a été quelque chose qui a permis, qui était un point central dans la continuité de vie. Hein. Effectivement, l'alimentation et la...
On vient à l'essentiel.
À l'essentiel, voilà, le logement, l'alimentation et la santé, l'éducation aussi arrive aussi assez vite derrière. Mais ce sont des points importants. Et l'agroalimentaire, il y a tout un enjeu aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire, avec la question des relocalisations. On l'a vu, hein, justement, sur les chaînes de production et les risques sur les chaînes de production, des problèmes d'approvisionnement. Donc l'agroalimentaire reste un point important. La question de la santé, bien sûr, est centrale. Hein, on le voit, et notamment tout l'enjeu sur l'industrie pharmaceutique et la production qui pourrait être relocalisée. Et troisième point, qui est un point important, c'est le numérique. Et effectivement, là aussi, la souveraineté numérique.
Hein, exactement.
Qui est un point important sur la sécurité des données, notamment. Et donc ça, c'est des secteurs qui se sont plutôt bien maintenus pendant la crise. On voit, bien sûr, le numérique et permis la continuité d'activité de beaucoup d'entreprises. Et justement, on a plutôt une accélération de la digitalisation du numérique dans beaucoup de secteurs, avec des enjeux de politique publique importants qui sont autour de la couverture du territoire, avec l'accès justement à des bonnes connexions. Donc il y a tout l'enjeu sur le développement de la fibre optique sur tous les territoires, si on veut un accès à peu près égal. Et puis il y a tout l'enjeu autour, qui a un grand débat aujourd'hui, sur la 5G. Mais voilà, le numérique fait partie, bien sûr, des secteurs en pointe sur et qui montrent l'utilité d'avoir justement des bons outils numériques et un vrai secteur performant de ce côté-là pour l'économie française.
Alors tout à fait, on a vu certaines sociétés, on en parlait tout à l'heure, la capacité ou non à pouvoir basculer sur un mode de télétravail efficace et rapidement. Ça passe par l'outillage, évidemment. Disposer évidemment des outils, du matériel, mais aussi des logiciels qui permettent de le faire. Vous parliez de sécurité, c'est fondamental. Là, on a vu que certaines sociétés s'en étaient sorties mieux que d'autres, étaient sans doute plus équipées, plus à même, plus organisées, parce qu'il y a des questions d'organisation, il y a aussi une forme de management, des rituels différents en termes de communication, etc., à mettre en place. Vous parliez tout à l'heure des réunions que vous mettiez vous-même en place, et c'est assez nouveau dans ce mode de télétravail. Donc on voit, oui, une accélération de l'adoption. Est-ce que d'après vous, on l'évoquait tout à l'heure, cette adoption est pérenne. Moi, il y a un point que je note, c'est que le télétravail n'était jusqu'à présent pas du tout vu comme un dispositif de continuité d'activité, mais plutôt comme une commodité, un aspect, on va dire, un petit peu culturel, une forme d'attractivité pour certaines entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu un maillon essentiel de la chaîne, quand c'est possible, bien entendu, de la chaîne de continuité d'activité, donc pour toute entreprise qui souhaite pouvoir continuer à exercer son activité à minima critique, elle doit être dotée de ce type d'outils. Donc pour vous, c'est un changement pérenne et un changement profond dans les entreprises qui est en train de s'opérer ?
Je crois que oui. On fera le bilan un peu plus tard, mais oui, je crois que oui. D'abord, d'une part, parce que cette crise n'est pas un épiphénomène. Il y a eu d'abord le confinement, hein, qui a quand même créé vraiment des façons de fonctionner totalement différentes. Et puis on voit qu'elle s'inscrit quand même dans la durée. D'ailleurs, quand on voit ce que déclare le directeur de l'OMS, qui dit qu'il faut s'attendre à plusieurs vagues, il faut savoir qu'il y a un comité vaccin qui a été mis en place par l'Élysée. La présidente de ce comité vaccin a bien dit, de toute façon, dans le meilleur des cas, si on a un vaccin à la mi-2021, ça serait déjà quelque chose de très positif. Et après, il faut vacciner toute la population. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on va avoir une crise économique, enfin, en tout cas sanitaire, dans laquelle, effectivement, l'épidémie va pas être réglée du jour au lendemain.
Oui, j'ai envie de dire que même si on trouve un vaccin, aucune entreprise ne pourra ignorer qu'un risque pandémique puisse exister.
Exactement. C'est-à-dire, c'est plutôt aussi ça, la prévention qui va émerger tout ça, y compris sur la gestion, on va voir, sanitaire ou la gestion organisationnelle et ou politique des pays sur cette prévention. Et donc, c'est vrai qu'au sein des entreprises, il y a plusieurs points. C'est qu'on voit que là, on est encore avec un rebond progressif de l'épidémie, alors qu'il n'y a pas forcément les mêmes conséquences en termes de mortalité, mais qui incite de toute façon
à la
prudence. Je dirais, la continuité d'activité, elle est essentielle, on regarde la crise économique, et surtout, les entreprises ont intégré le fait que ça s'inscrivait plutôt dans la durée, et qu'elles ne devaient pas être dépendantes de rebonds épidémiques, c'est-à-dire plutôt anticiper que de subir. Et donc, ce serait organisé en amont, en disant, voilà, à l'horizon même d'un an ou deux ans, imaginons qu'on doit travailler dans cet univers-là et que de toute façon, il va falloir s'adapter, il faut le faire maintenant et pas attendre qu'on nous dise, en fait, maintenant, il va falloir que vous adaptez. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes et bien sûr, anticiper. Et donc, les conséquences durables, c'est que du coup, dans la gestion du quotidien, il va y avoir un phénomène d'accélérateur, en réalité, sur, on voit que cette transition, elle existait progressivement, était très progressive. En fait, là, on aura vraiment un phénomène d'accélérateur très fort et donc de repenser maintenant cette organisation avec, à mon avis, un impact durable. Parce qu'une fois que vous êtes passé sur une nouvelle façon de travailler et qu'il y a une organisation managériale autour de ça, il y aura forcément des conséquences et un bilan à tirer de tout ça et voir quel est l'intérêt collectif, justement, de passer à ces nouveaux modes de fonctionnement et de travail.
L'essayer, c'est l'adopter, vous nous dites.
Après, je pense que oui, l'essayer, c'est l'adopter et trouver le bon équilibre. C'est-à-dire, au sein de chaque boîte, de voir ce qui est le mieux pour tout le monde. Et on voit que les enjeux, de toute façon, sont multiples. Il reste les enjeux économiques, qui sont quand même ce qu'on dit, la continuité d'activité, qui est quand même essentielle. Il y a la question des gisements de productivité aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être encore plus productif en télétravail parce qu'on économise le temps de transport, certaines pauses, etc. Peut-être plus de facilité de concentration. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Et puis après, il y aura aussi un besoin de repenser aussi pour les entreprises sur la gestion même des locaux. C'est-à-dire que ça, c'est un point important. Et face à la crise, effectivement, le coût des locaux, c'est un coût fixe important pour les boîtes. Donc, s'il y a une vraie demande et on s'aperçoit que la productivité peut être plutôt élevée en télétravail, alors à ce moment-là, même les boîtes vont devoir repenser un peu tout le schéma, y compris sur les locaux.
Alors exactement, c'est deux points que l'on voit beaucoup. Donc on en parle, vous en parliez également. Les appartements parisiens ne sont pas toujours confortables. Dans une perspective où on s'est dit que le télétravail se généralise, est-ce que vous voyez, en tant qu'économiste, se poindre en fait la possibilité d'avoir des personnes qui partent vivre dans une... Enfin, en tout cas, en province, pour le coup, et non plus seulement en banlieue parisienne, pour avoir plus d'espace, en se disant qu'elles viendront peut-être une journée par semaine au bureau. On voit d'ailleurs fleurir un peu partout des publicités sur certaines villes qui proposent une attractivité, qui se disent être la ville numéro un du télétravail parce qu'elles ont les équipements, vous en parliez aussi tout à l'heure. Donc est-ce qu'on voit ce phénomène? Est-ce qu'à votre avis, c'est juste un épiphénomène en ce moment, ou est-ce que vous imaginez que des salariés eux-mêmes d'entreprises auront cette envie d'aller bouger?
Pour le moment, c'est vrai que, c'est, en tout cas, ce phénomène-là, il est présent dans un certain nombre de discussions. Ça, c'est évident. Maintenant, on n'a pas encore les statistiques précises là-dessus. Ce qu'on voit, et ce qui est quand même un point intéressant...
On fait de la projection.
On fait de la projection. On voit que des boîtes basculent là-dessus. Et on reviendra peut-être sur ce point-là. Ce qui est quand même intéressant sur les statistiques, c'est que le télétravail régulier concernait 3% des salariés. Avec l'occasionnel, on montait à 7%. Durant le moment du confinement, on est monté presque à 30% des salariés concernés. Alors avec beaucoup d'inégalités derrière, ça c'est un enjeu aussi assez fort. C'est-à-dire que on voit que c'est beaucoup des professions de cadres. 85% des cadres peuvent télétravailler. Certaines professions intermédiaires, mais par exemple un ouvrier, très peu d'ouvriers peuvent télétravailler, voire zéro. Et effectivement, ce sera pas la même chose aussi quand vous travaillez dans la banque, la finance, l'assurance, l'informatique, le numérique... il y a beaucoup de télétravail. En revanche, quand vous êtes dans l'industrie ou le BTP, enfin certaines parties industrielles, ça va être beaucoup plus compliqué. On le voit chez PSA, le travail. Télétravail a basculé pour un certain nombre de cadres qui sont justement qui ont la possibilité de travailler. Par contre, tous les sites où il y a de la production, on ne peut pas télétravailler.
Avec pourtant une communication assez forte de PSA sur,
bien sûr.
Sur le fait de basculer en télétravail.
18 000 personnes. Ouais. Hein. Ça concerne 18 000 personnes qui passent à 4 jours par semaine, je crois. Et je crois qu'il y a 400 sites, du coup, qui sont repensés. Donc, on voit que c'est pas rien. Hein. Et donc, oui, il y a cet effet-là qui va être quand même important. Et puis, il y a deux choses. C'est l'organisation, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise a intérêt à basculer là-dessus ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a gisement de productivité, coût des locaux ? Même peut-être arbitrage, je dirais presque modération salariale versus possibilité de télétravailler, parce que ça fait partie des conditions de travail.
Bien sûr.
Et donc, l'attractivité de, on va dire, de au potentiel ou de personnes, en tout cas, bien qualifiées, peuvent être demandées peut-être dans leur contrat, surtout du télétravail, en contrepartie, pas forcément de salaire mirobolant. Donc, je pense que ça, c'est un atout aussi pour être attractif. Et donc, cet ensemble va créer quand même une réflexion. Et puis, oui, dernier point aussi, qui est quand même très important, c'est le phénomène sociétal. C'est-à-dire que beaucoup de salariés demandent aussi à avoir des modes d'organisation de vie qui peuvent être différents entre vie privée et vie professionnelle, et avoir justement un peu plus de souplesse et de liberté, y compris sur leur installation géographique. Et donc, ça pose la question, effectivement, de savoir est-ce que on doit forcément habiter dans l'endroit où on va travailler, ou au contraire, on peut justement trouver des nouveaux modes d'organisation, ce qui est aussi un enjeu intéressant pour les territoires. C'est-à-dire que c'est peut-être une des premières fois où les grandes agglomérations peuvent devenir un peu moins attractives, et que des territoires qui, pour le coup, ont plutôt subi les crises à répétition, peuvent devenir à nouveau attractifs. Si bien sûr, après, il faut que les politiques publiques suivent, c'est-à-dire qu'il faut les infrastructures de transport qui permettent tout ça, et les infrastructures numériques aussi. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, y compris sur la redynamisation de certains territoires.
De certains territoires, tout à fait. Alors, vous parliez justement des locaux des entreprises, de cette opportunité finalement peut-être de repenser. Il y a des espaces énormes, si on se projette à la Défense, par exemple. On imagine le nombre de mètres carrés qu'on pourrait rationaliser, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Ils deviennent attractifs pour qui, ces mètres carrés? Parce que si toutes les entreprises de la région parisienne se posent cette question, essayent de rationaliser et potentiellement diminuent peut-être leurs mètres carrés, ils sont attractifs pour qui? C'est d'habitat, on les transforme comment?
Alors là oui, c'est une vraie question. C'est-à-dire que là, on est peut-être face justement à, en tout cas, sur la question de l'immobilier commercial, à une crise potentielle qui peut être importante. S'il y a une réorganisation globale de la façon de travailler, sachant que là, on parle plutôt de l'agglomération parisienne et Paris, hein,
bien sûr.
Qui est en plus composée pour les salariés de beaucoup de cadres. Hein, je crois qu'il y a 45% des salariés qui travaillent à Paris sont des cadres. Donc c'est colossal. Donc ça veut dire que ces gens-là, potentiellement, pourraient bouger. Effectivement, du coup, au regard du prix du foncier, la question va se poser de savoir quelles sont les entreprises qui sont prêtes à investir des sommes aussi importantes dans des locaux qui sont aussi chers, qui peuvent être sous-utilisés. Donc, bien sûr que ça va être un enjeu aussi important sur quelles sont les conséquences en termes immobiliers de, justement, cette réflexion autour de ça, sachant que c'est des investissements lourds, hein, c'est des investissements fonciers importants, et que vous investissez des locaux, c'est beaucoup plus cher que d'investir dans des outils numériques.
Évidemment.
Et donc, forcément, là, c'est ce qui est intéressant aussi dans cette forme de révolution du télétravail, c'est que les outils à mettre en place sont peu chers. En réalité, c'est un investissement managérial, quelque part.
Ça, c'est vrai.
De réorganisation du travail, plutôt qu'un investissement d'actifs physiques, parce que le matériel coûte pas très cher, en réalité. Donc, c'est assez simple de basculer, alors que c'est beaucoup plus compliqué d'acheter des locaux, des grands locaux, qui coûtent cher. Il faut avoir les ressources pour le faire, les financements, etc., le rentabiliser. Donc, voilà. Donc, il peut y avoir des effets assez forts sur cet immobilier commercial. Et la question, c'est effectivement, est-ce qu'une partie de cet immobilier commercial peut basculer en immobilier résidentiel, sachant qu'effectivement Paris a une offre assez faible sur le résidentiel et une demande forte, ce qui fait que les prix sont élevés. Donc on peut voir effectivement des basculements assez intéressants, mais ils sont plutôt intéressants parce qu'on voit que dans les zones tendues, on avait atteint des prix qui étaient quand même faramineux. Alors c'est vrai que pour ceux qui sont propriétaires, il y a des risques de perte importantes, mais par contre pour les gens qui veulent s'installer, ça sera aussi une facilité, c'est les prix rebaissent un peu.
Plein de perspectives, effectivement. Et puis, on parlait de la possibilité pour les salariés de partir, d'envisager une vie en province pour avoir une qualité de vie peut-être supérieure. On peut imaginer des choix aussi radicaux pour les entreprises. On pense évidemment à des entreprises qui se créent, à des start-up, qui peuvent être attirés par des bassins aussi intéressants, qui peuvent aller en Creuse, je ne sais pas.
Oui, oui.
En tout cas, s'éloigner aussi. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour elle également d'aller, vous parliez de redynamiser les territoires, c'est possible pour les entreprises aussi de prendre ces choix radicaux et de se dire « je ne m'installe pas du tout en région parisienne ».
Tout à fait, je dirais d'autant plus les, effectivement, les PME assez innovantes, les start-up, qui, justement, peuvent passer très vite sur ces outils numériques, ou déjà qu'ils les maîtrisent. Hein. Effectivement, et dans cette crise-là, on voit bien quand même, les pertes économiques sont importantes. On les a chiffrées pour les entreprises, déjà depuis le début de la crise, à plus de 50 milliards. Malgré les dispositifs d'activité partielle, le fonds de compensation qui a été mis en place pour les PME, donc ça veut dire qu'il reste des coûts fixes importants. Et donc, certains nombres d'entreprises vont se retrouver à faire des choix assez vite, à la fois leur continuité d'activité, mais aussi sur des coûts financiers. C'est-à-dire, on choisit, et si on doit réduire quelque chose, qu'est-ce qu'on réduit? Est-ce qu'on réduit la masse salariale? Est-ce que, et là, c'est le risque, effectivement, de destruction d'emplois, de licenciements? Ou est-ce qu'effectivement, on essaye d'arbitrer sur des coûts fixes, sachant qu'on peut avoir des possibilités de fonctionner autrement? Donc ça, c'est quand même un point important. Et puis, pour les nouvelles entreprises qui vont s'installer, effectivement, là, pour le coup, il y aura un intérêt assez fort, sachant que les bassins d'emploi s'élargissent. À partir du moment où vous avez accès à un télétravail ou la possibilité de travailler à distance, vous n'êtes pas obligé juste de recruter dans le bassin d'emploi qui est proche de votre lieu d'installation. Donc ça donne des perspectives aussi beaucoup plus larges, y compris pour des personnes qui étaient loin des grandes agglomérations, mais qui avaient effectivement des qualifications qui auraient pu être intéressantes aux entreprises. Mais du coup, ça recrée une nouvelle mobilité.
Une nouvelle mobilité.
Et donc peut-être aussi, alors plutôt sur niveau de qualification de cadre, mais entre l'offre et la demande, des facilités à trouver quand vous, enfin voilà, trouver la bonne personne pour le poste considéré, parce que vous avez plus, moins ce problème-là qui est de contraintes géographiques.
C'est une vraie petite révolution hein, du work from anywhere, avec la possibilité de s'installer où on veut quand on est en entreprise, une entreprise, pardon. Et quand on y travaille aussi, de pouvoir avoir cette flexibilité-là. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans cette crise, donc pas mal d'opportunités à ce niveau-là. Mais avant de revenir sur les opportunités qui se présentent, peut-être votre point de vue justement sur ce plan de relance. Mmh. Quelle est votre opinion en tant qu'économiste? À votre avis, est-ce que le curseur a été mis au bon endroit? Quelle est votre vision?
Alors, il y a plusieurs points. C'est-à-dire que le plan de relance, alors c'est 100 milliards hein, qui vont... être à peu près injecté, c'est donc historique, hein, c'est pareil,
inédit,
hein,
ouais.
C'est inédit, c'est quand même des sommes qui sont très importantes. Un peu plus de 30 milliards devraient émerger pour 2021, et après on est autour de 40 milliards pour 2022, et des investissements un peu plus de long terme, par exemple sur le plan hydrogène, sur la suite. Les points intéressants, c'est qu'ils visent à une vraie transformation économique, ou accompagner la transformation économique. Notamment sur un certain nombre d'investissements, on le voit autour de l'investissement dans la transition écologique, qui est un point assez fondamental, hein, sur notamment la rénovation thermique des bâtiments, les nouvelles mobilités, et ça c'est un point important, et notamment avec tout ce qui va être autour des infrastructures ferroviaires, le plan aussi automobile, qui facilite l'achat de véhicules qui sont moins polluants. Donc ça c'est des points importants. Alors il y a un plan vélo aussi, pour les grandes villes, donc bon, on voit qu'il y a quand même une transformation derrière tout ça. Il y a aussi un plan d'investissement aussi de long terme sur les tout ce qui est politique d'innovation et dont le numérique fait partie.
Quand vous dites long terme,
c'est-à-dire que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les plans d'investissement d'avenir. Donc c'est à peu près sur une dizaine d'années. Et donc il y a par exemple dans le numérique, c'est un meilleur équipement, on facilite l'équipement des outils numériques pour tout ce qui est TPE, PME, ETI.
C'est 7 milliards d'euros, je crois, la partie dédiée au numérique dans ce plan de...
Voilà, c'est à peu près 7 milliards d'euros, donc c'est quand même important. Et dedans, il y a aussi le basculement vers le numérique de tout ce qui est aussi administration, par exemple. Il y a aussi tout ce qui va être autour de la cybersécurité, les clouds, qui sont des enjeux et donc qu'on appelle la souveraineté numérique ou technologique, qui sont des points importants. Donc ce plan-là va s'inscrire là-dessus en disant, en gros, c'est pas un épiphénomène, hein, on est vraiment dans un phénomène de transition écologique, donc c'est le moment d'accélérer cette transition écologique et une transition numérique aussi. Et puis après, il y a aussi l'enjeu alimentaire dont on a parlé hein, au début, et un enjeu industriel qui est sur les relocalisations, et faire en sorte que l'activité, en partie des activités, se relocalisent en France. Et donc voilà, c'est un plan qui est pas juste un plan de relance, au sens propre, c'est-à-dire que c'est pas juste pour un an ou deux ans, mais ça dessine déjà des trajectoires pour quasiment la décennie en cours. Donc c'est pas rien. Le bémol, dois mettre un bémol, c'est plutôt sur la gestion du court terme. C'est que du coup, il n'y a plus grand-chose pour la gestion propre de la crise, si ce n'est il y a encore le dispositif d'activité partielle qui est quand même important. Mais par exemple, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur retour, enfin d'enjeu de dispositif sur l'épargne accumulée et de savoir comment cette épargne pourrait se redégonfler assez vite dans l'économie. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup d'activités de services, elles sont dépendantes de la consommation et de la consommation locale ou domestique. Et donc, effectivement, si cette consommation est rebasculée dans l'activité, ça permet de limiter le choc économique. Et puis, il y a les dispositifs sur ce qu'on appelle les renforcements de fonds propres pour les entreprises en difficulté. Là, aujourd'hui, le gouvernement a mis 3 milliards. Ça me semble un peu sous-calibré au risque de faillite. Et puis, il y a la gestion aussi de ce qu'on appelle les prêts garantis par l'État qui ont permis à beaucoup d'entreprises de tenir. Il va falloir les rembourser. Or, aujourd'hui, on sait que dans beaucoup d'entreprises, ça va être très compliqué, ces remboursements, et il n'y a pas de dispositif spécifique autour de ça. Peut-être que le gouvernement garde des cartouches, à mon avis, derrière ça, mais pour le moment, on est plus sur un plan de moyen-long terme qu'un plan de court terme. Mais ça, pour le coup, sur
c'est
tout
rassurant.
Ce qui est, ce qui est rassurant, c'est que sur tout ce qui va être infrastructure, transition écologique, numérique, c'est des points qui sont quand même essentiel et dans lequel le gouvernement a investi, en tout cas dans son plan.
Alors peut-être, merci pour cette analyse. On peut peut-être revenir peut-être sur le principe de souveraineté numérique, qui est peut-être pas forcément compris par tous, mais en tout cas, l'idée, c'est donc d'avoir des acteurs référents qui soient des acteurs européens, qui permettent effectivement d'avoir la main, on va dire, sur les données critiques des entreprises. C'est bien votre vision, c'est le sens de cette souveraineté numérique.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit que d'abord, on voit le développement très fort du numérique depuis un certain nombre d'années. Les enjeux autour des données et la sécurité des données.
Des données sensibles, ça peut être
des données sensibles. Des données sensibles pour les entreprises, pour les administrations, des données personnelles. Donc, il y a beaucoup de choses. Et donc, on voit aussi avec le développement du télétravail. On voit que le télétravail peut aussi bien fonctionner s'il est sécurisé. Ouais. C'est-à-dire que si vous pouvez faire des réunions à distance, mais qui peuvent pas être espionnés, typiquement, ou il faut quand même, dans beaucoup de boîtes industrielles, il y a quand même des enjeux qui peuvent être forts, et donc garantir la sécurité de ces données-là, ou de l'information, de la transmission de l'information, c'est essentiel. Et effectivement, si vous avez une souveraineté, une sécurité déjà européenne, l'Europe peut être la bonne échelle de réflexion.
Sûrement, il y a en tout cas des réglementations comme le Privacy Shield qui a été récemment effectivement dénoncé. Donc il y a quand même des enjeux forts de garder ces données en Europe. C'est ça qui est primordial.
Ça c'est primordial et donc on voit qu'il y a vraiment une constitution. Enfin une constitution. En tout cas, il y a une vraie réflexion plus qu'une réflexion parce que aujourd'hui il y a des avancées autour de ça. Et on peut imaginer le monde de demain où les rapports sont pas toujours pacifiques. Faut bien voir entre les guerres commerciales. L'espionnage industriel qu'il peut y avoir, on le voit aussi dans, on l'a vu, face à la crise Covid et la crise sanitaire et par exemple la gestion des stocks de masques ou des respirateurs. Donc qu'est-ce qui va être essentiel pour une économie? Donc quels sont les actifs stratégiques? Les vaccins, c'est pareil. On voit la course aux vaccins et qui sera prioritaire et tout pour être vacciné. Donc c'est vraiment pour les États aussi, c'est la gestion de ce qu'on appelle l'état stratège, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme stratégique pour le monde de demain. Et la sécurité, la cybersécurité, l'indépendance numérique sont des enjeux très importants. Et l'Europe a la taille critique pour mener justement ce combat. Je pense que, bien sûr, on peut le faire au niveau français, mais on peut pas le faire seul.
Évidemment.
Et que du coup, c'est des plans de réflexion importants. D'ailleurs, dans le plan de relance, qui est un plan de relance aussi européen, il y a un volet numérique qui est important.
Très bien. J'allais vous poser la question justement de cette harmonisation des plans. Est-ce que pour vous, il y a cette coopération européenne? Vous venez de le dire, effectivement, les plans sont à l'échelle des pays, mais sont des plans européens. Est-ce qu'il y a effectivement une sorte d'égalité de réaction?
Alors, on est face à un mouvement quand même assez nouveau. D'abord, la rapidité d'exécution, c'est-à-dire qu'on voit les sommes qui ont été injectées dans les économies. Entre plan d'urgence, ce qu'a mis en place la Banque centrale, les plans de relance, c'est des sommes qui sont inimaginables. Donc ça veut dire que il y a eu une capacité de réaction très très rapide des États. Au départ un peu désorganisé quand même, c'est-à-dire que chacun a dû gérer un peu comme il pouvait à la fois la crise sanitaire et la crise économique. Et puis il faut pas oublier qu'il y a quand même une souveraineté des États aussi dans la décision publique. Donc chacun a réagi, mais par contre l'Europe réagit un peu avec retard là-dessus, mais fini par aboutir quand même sur quelque chose d'assez intéressant, qui est un plan de relance européen, qui est financé par sur le long terme et par des nouvelles taxes européennes hein, qui sont pas encore connues, mais par contre, du coup, avec une affectation qui est selon les pays, selon les besoins des pays. Donc ça va être assez différent de ce qu'on a connu. C'est pas juste vous contribuez à tant au budget européen, vous récupérez tant. Là, il y a des vrais transferts, et notamment, ce qui est plutôt intéressant, ce qui crée une forme de début de fédéralisme européen, avec l'acceptation que certains vont payer un peu plus que d'autres, et d'autres vont récupérer un peu plus, parce qu'il y a des besoins qui sont différents selon les pays. Et en même temps, si on veut avancer de façon commune, il faut accepter ça. Et donc ça, c'est un point nouveau, et donc il y a 390 milliards qui ont été quand même... 750 milliards, hein, pour être honnête avec les prêts, mais c'est 390 milliards de vraies subventions nouvelles, avec deux points fondamentaux, trois points, je dirais. C'est effectivement transition écologique, formation, et notamment la question de l'emploi des jeunes, et puis aussi tout ce qui est infrastructure et transition numérique, qui sont des points importants. Donc ça, c'est les axes forts de l'Europe.
Jusqu'à l'échelle européenne. Eh bien, parfait. Je pense qu'on a une vision un petit peu claire de ce qui se dessine. Si on revient en fait sur la situation en France, on voit effectivement un engagement fort de l'État, un plan de redressement qui est assez ambitieux, même s'il y a quelques réserves et quelques critiques. Une opportunité peut-être pour les entreprises de repenser leur localisation. Une possibilité peut-être pour les territoires de se redynamiser, peut-être une redistribution d'activités économiques en France, pourquoi pas. De façon certaine, on peut presque le dire, une modification en tout cas durable de l'organisation du travail au sein des entreprises, donc de vraies opportunités sociales aussi, sociétales, on va dire, des enjeux sociétaux qui ont été accélérés, l'accélération évidemment de la digitalisation des entreprises, enfin tout un tas de choses qui se sont passées et qui font que finalement, on a l'impression que cette situation, cette crise sanitaire et économique a finalement accéléré un certain nombre de mutations et que ces mutations sont peut-être finalement positives. Et j'ai envie de vous poser une dernière question. Bon, bien sûr, on l'a vu, il y a des écueils, on est dans une situation de crise économique sans précédent. Néanmoins, s'il fallait retenir un mot, vous diriez quoi ? Est-ce que c'est plutôt une opportunité, cette crise qui se présente aujourd'hui ? Pour les entreprises, bien sûr.
Alors, pour certaines entreprises, oui, c'est une opportunité. On fait face à une crise quand même qui est très sévère. Donc, dans beaucoup de secteurs, ça reste quand même difficile. Ça veut dire aussi des secteurs doivent se repenser. Par exemple, la question du tourisme. Quel va être le tourisme de demain? Donc ça, c'est quand même des points intéressants. Mais ça bouscule, un certain nombre d'acteurs économiques. Et ça peut être de façon positive. Et c'est ça le point intéressant, hein, sur finalement des enjeux qui étaient déjà là, mais qui mettait du temps à émerger. Par exemple, la question de la transition écologique. Là, elle devient primordiale. On en a conscience. La question de se repenser aussi sur nos modes de travail. On vient d'en parler, sur le fonctionnement du travail. Est-ce qu'on peut travailler différemment et mieux ? Sur nos localisations d'activités. On l'a vu sur l'enjeu globalement géographique des territoires, mais aussi une forme de relocalisation d'activités qui serait aujourd'hui à l'extérieur de la France et qui pourrait revenir en France pour un certain nombre de raisons, parce qu'on voit... que ces crises-là créent des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, créent des difficultés pour des entreprises et posent la question des actifs stratégiques pour un pays. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on doit produire en France et qui est essentiel pour notre activité? On voit que donc du coup, il y a plusieurs, plusieurs tiroirs à cette crise. Hein. Donc très clairement, moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est cette convergence d'un certain nombre de points qui sont à la fois sur les enjeux écologiques qui apparaissent et justement, l'émergence du numérique et du travail peut correspondre à ces enjeux, avec les nouvelles mobilités aussi. Les enjeux économiques, c'est-à-dire comment on répond à la crise. Et donc, je pense que les entreprises qui vont s'adapter le mieux à cette crise ou qui vont se repenser le plus vite sur leur façon de fonctionner sont celles qui vont s'en sortir le mieux. Et donc, c'est maintenant qu'il faut réfléchir, il ne faut pas attendre de subir. Et puis, les enjeux sociétaux, c'est qu'il y a une nouvelle demande qui émerge, une nouvelle demande sociale sur la façon de travailler, la façon de fonctionner, la façon de vivre son quotidien. Et donc, c'est une occasion unique de repenser le monde d'après et pas de penser que voilà, c'est juste un épiphénomène. Donc, profitons-en.
Eh bien, vivement le monde d'après, on va dire. Et merci beaucoup, Mathieu Plaine, pour cette intervention sur notre chaîne OUTALK.
Merci à vous.